Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Au siècle des Lumières, le théâtre est un lieu de haute sociabilité. Les ombres chinoises sont devenues à la mode, des paysages sur grandes plaques de verre ont un grand succès en Angleterre, la caméra obscura de Descartes s'est transformée en lanterne magique. Scènes érotiques, historiettes sont ainsi visualisées par les curieux, on fait monter dans les appartements de la capitale le montreur d'images qui installe la fameuse lanterne dans le salon de compagnie pour la soirée, pour la plus grande joie des familles ou des amis. Comment plaques de verre, toiles de gaz, papier huilé ont joué de lumière et de transparence pour entrer au final en mouvement. C'est cette histoire, celle de la magie des images dans la France du XVIIIe, que je vous propose aujourd'hui de découvrir. Laurence Châtel de Brancion, vous avez signé aux éditions Monelaio un beau livre intitulé « Le cinéma au siècle des Lumières ». Bonjour et bienvenue dans l'émission « Au fil des pages ».
Bonjour.
Laurence Châtel de Brancion, tout a commencé avec un certain Servant Doni qui est venu mourir à Paris et qui fut en quelque sorte l'initiateur et le diffuseur des décors animés. À l'époque, on peint aussi beaucoup de paysages sur papier et j'aimerais pour commencer l'émission que vous nous décriviez un petit peu ce contexte favorable aux images et à ce goût déjà là pour le public et pour déjà des artisans confirmés.
Alors je pense qu'il faut commencer par dire que le XVIIIe siècle est passionné de théâtre et que le théâtre est partout, le théâtre est évidemment dans la rue. Il y a par exemple, pas très loin d'ici, la foire Saint-Germain, où vous avez toujours des scènes de théâtre. Toutes les fêtes au village ont des théâtres, mais aussi chez soi, on a des théâtres. Et on joue la comédie, on la joue soi-même, on la fait jouer. Et donc, on aime ce type de spectacle animé avec des histoires, avec la volonté de se distraire, mais aussi parfois d'apprendre, c'est-à-dire d'évoquer des paysages extraordinaires comme, par exemple, le Vésuve en flammes. Ça les séduit beaucoup. Et le problème, c'est qu'il y a toujours une certaine surenchère. C'est quand même le siècle des Lumières. On veut aller vers le progrès. Et donc, tout ce qui apporte quelque chose de nouveau séduit. Séduit et Servant Doni, qui est au départ un architecte, qui évidemment le sens de la lumière et du jeu de la lumière dans les formes, commence à mettre en œuvre des décors tout à fait étonnants, pour lesquels il utilise d'ailleurs d'autres techniques comme les ombres chinoises, puisqu'il fait venir des acteurs derrière de très grandes gazes et les laisse immobiles, mais en variant la lumière, on a l'impression du mouvement. Et donc le spectateur voit sur des très grandes toiles, des ombres animées ou qu'ils croient animées et des lumières qui changent. Et ça ravit les populations.
Laurence Châtel de Brancion, Carmontel et Lauterbourg vont chercher justement au cours du siècle à améliorer les effets sonores et de lumière voulus par Servant Doni. On parlerait aujourd'hui d'effets spéciaux. Qu'est-ce qu'ils souhaitaient exactement faire dans cette démarche?
Alors la démarche de Lauterbourg, en fait, est une démarche typiquement théâtrale, c'est-à-dire que lui traverse la Manche, comme on le faisait beaucoup à l'époque, et va à Londres, où il s'installe et où il travaille sur des décors animés. Il travaille sur des décors animés pour le théâtre de Drury Lane, qui était tenu par un acteur qui a été la grande vedette européenne de l'époque, qui était Garrick. Et pour Garrick, il va concevoir des décors à base de plaques de verre et de gaz qui jouent les uns par rapport aux autres et qui l'animent par des jeux de lumière. Et en outre, pour donner plus de véracité, il va faire du bruitage. Et pour vous donner un exemple, eh bien dans une scène de tempête, il y a un personnage à l'arrière, dans les coulisses, qui agite un tiroir qui a été rempli au préalable par des galets et des coquillages et qui les agite en rythme comme des vagues. Et évidemment, tout le monde trouve ça tout à fait merveilleux. Mais dans la réalité, c'est toujours le même paysage que l'on voit avec des lumières différentes et, si vous voulez, à des moments différents de la journée où, par exemple, une mer calme qui devient une mer tempestueuse, etc. Alors que Carmontel, lui, veut aller beaucoup plus loin et raconter une histoire en images, ce qui est une démarche tout à fait différente puisqu'il veut raconter une histoire en continu à l'aide de l'image et d'une image animée.
Ce procédé a également intéressé des grands artistes en Angleterre.
Alors le procédé de Lutherbourg faisait partie en fait de tout un milieu de recherche à l'époque qui vient techniquement du fait que l'industrie du verre anglaise était très en avance et fabriquait déjà de grands verres d'un seul tenant et très transparents, d'une très grande qualité. Et des peintres comme Gainsborough vont utiliser ce verre et cette possibilité de l'éclairer par derrière pour faire des recherches sur la lumière. Et on voit aujourd'hui encore, à Victoria et Albert Museum, l'appareil dans lequel il passait ces plaques de verre qui lui permettaient de faire varier la lumière comme étude du paysage qu'il allait faire. Et il y a quelques plaques de Gainsborough dans ce musée de Londres, ce grand musée de Londres, que l'on voit encore et dont on connaît le tableau qui a été l'aboutissement de cette recherche sur la lumière. Alors qu'en France, c'est quelque chose qui ne sera exploité que plus tard, en particulier par quelqu'un comme De Marne, mais là, c'est 25 ans plus tard. C'est donc au début du consulat, sous l'Empire. Et là, on voit d'ailleurs à Sèvres, il y a deux grandes plaques de De Marne, très belles d'ailleurs, montrant un paysage de Saint-Cloud.
Quand Carmontel décide de s'intéresser à ce procédé, que va-t-il rechercher ? Vous allez d'abord nous présenter cet homme au service de la Maison des Orléans.
Louis Carogi, qui avait pris comme nom de guerre Carmontel, était un fils de cordonnier, ce qui à l'époque n'était pas tout à fait la même situation sociale que ce que l'on a aujourd'hui. Le cordonnier faisait partie d'un corps d'artisans très recommandé, très recommandable et très riche. Et il a pu faire des études, il a fait des études d'ailleurs au collège Louis le Grand, mais il n'a pas suivi la voie classique qui était quand même réservée à soit de grands bourgeois, soit des aristocrates. Et il va faire des études plus techniques, va devenir topographe. Et topographe, il va suivre l'armée. Il est à l'état-major des armées et à l'état-major des armées, il relève des cartes et surtout fait des plans de fortifications ou de moyens pour déjouer les fortifications mises par l'ennemi en face des armées françaises. Et il va, comme cela, parcourir l'Europe.
Et d'ailleurs, de ses voyages, il tirera d'heureux souvenirs pour ses futurs dessins.
Alors, de ses voyages, non. Aucun des dessins de ses transparents ne fait allusion à un paysage autre que celui de la région parisienne, ce qui est très précis.
Oui.
Et par contre, c'est à l'armée, lorsque l'armée campait et s'ennuyait, il va là faire deux choses, du théâtre d'abord, c'est-à-dire que pour distraire les officiers et les troupes, il va inventer des petites comédies comme des Commedia dell'arte dont il fera les décors et il fera jouer tout le monde. Et puis il va, lors du début de la campagne effroyable qui a été celle de la guerre de 7 ans, il va commencer à peindre les officiers les uns derrière les autres, une galerie de portraits qui a été extrêmement bien perçu, qui a beaucoup amusé et intéressé, et qu'il va continuer.
Alors, effectivement, il est très connu pour ses talents de portraitiste et pour les fameux recueils de proverbes qu'il nous a laissés.
Voilà.
Mais pour revenir un petit peu au théâtre et à son goût d'organisation des fêtes qui ont été vite repérées, il est rentré donc au service ensuite.
Alors, il quitte l'armée, il rentre au service du duc de Chevreuse, du duc de Luynes d'ailleurs d'abord, et puis après ça, du duc d'Orléans, avec comme fonction d'être lecteur du fils du duc d'Orléans, et de lui apprendre l'art de la guerre, c'est-à-dire en France, à l'époque, l'art des fortifications. Et le duc de Chartres, donc le jeune duc de Chartres, qui a une douzaine d'années, sera le futur Philippe Égalité. Et là, il s'installe au Palais Royal, chez les Orléans, et il voit défiler devant lui tout ce que l'Europe fait de plus fameux, et il fait des portraits de tous ces gens-là. Avec une idée très précise, c'est d'en faire une galerie de portraits témoin de son temps. Et donc, il ne fait pas ses portraits sur des feuilles libres, il fait des portraits dans des registres, dans l'idée de les garder, donc comme une vraie galerie de portraits. Les Orléans, comme les autres, s'ennuient à la campagne, et donc en été, quand on est à Villers-Cotterêts ou à Saint-Cloud, eh bien, il invente des comédies qu'il fait jouer aux Orléans et à leurs invités. Et puis, bien entendu, il organise pour eux les fêtes les plus extraordinaires que l'on puisse imaginer. Très rapidement, d'ailleurs, sa réputation sur l'organisation des fêtes est grande. Et on le demande un peu à droite et à gauche. Et voilà. Lorsque la mode des jardins traverse la Manche, eh bien, il devient un créateur de jardins.
Alors, on va revenir sur tous ses talents. Donc, ce qui l'intéresse dans le théâtre, qui est quand même la passion de cette époque, c'est de peindre et de de saisir en un même lieu différents moments de la journée. Il n'y a pas que Carmontel qui s'intéresse à cette idée.
Dans la réalité, lui, c'est plutôt de saisir en fait des caractères frappants de l'époque. Il fait dans son œuvre théâtrale à peu près la même chose que ce qu'il fait dans son œuvre picturale, c'est-à-dire qu'en fait, il veut donner une image, un témoignage sur la société de son temps. Et donc, ces proverbes seront des proverbes qui vont décrire voisins-voisines, par exemple, les drames ou les amusements entre voisins, etc. Et d'ailleurs, des gens comme Stendhal reconnaîtront qu'ils ont, si on peut dire, pillé Carmontel pour retracer eux aussi, si vous voulez, la société de son temps.
Alors, comment s'impose à lui l'idée d'un théâtre sans acteurs, avec des effets sonores ?
Alors, il faut revenir d'abord au jardin. C'est quand il crée le parc Monceau pour la folie de Monceau, pour le duc de Chartres, juste après le mariage de celui-ci, dans les années 1772. Il crée à partir de rien ce jardin qui, à l'époque, était complètement ahurissant. Et dans ce jardin, il a fait une grande galerie. Dans le bâtiment du jardin, il a fait une grande galerie, et une galerie qui a 10 croisées. 10 croisées sur le jardin. Et voyant quand même en hiver que le paysage est un peu triste, il se dit au fond, si je mettais derrière les croisées le paysage qui existe vraiment, mais non pas nu et gris et terne comme on l'a en hiver, mais par contre avec toutes les fleurs du printemps, la lumière, etc., eh bien, on aura toujours l'impression d'un éternel printemps ou d'un éternel été. C'est ce qu'il fait. Et il stupéfie les invités du duc d'Orléans qui arrivent de l'extérieur transis de froid et qui rentrent dans cette galerie où on a évidemment mis des arbres exotiques, etc. et se retrouvent en regardant par les fenêtres en plein été. Et donc évidemment, il se dit « Ah, voilà une bonne idée ».
Alors le temps qui passe au fil d'une même journée comme les saisons sont des thèmes qui l'intéressent pour montrer justement cette évolution.
Alors, ce sont tout à fait des thèmes qui l'intéressent, et surtout, à partir de cette expérience du transparent, en fait, il a récupéré aussi l'idée des Japonais avec les rouleaux japonais, qu'il avait vus d'ailleurs chez les Orléans. Et ces rouleaux japonais décrivaient une histoire, mais si vous voulez, on dévide le rouleau d'un cylindre sur l'autre, et on voit, si vous voulez, une histoire qui se déroule. Mais ça n'est que pour une seule personne. Et il se dit au fond, si j'arrive à faire ça en transparence, eh bien plusieurs personnes pourront regarder cela. C'est de là que vient son idée des transparents, ce que l'on appelle les transparents.
Alors, racontez-nous justement comment se présentent ces fameux transparents, ceux de Carmontel et ensuite la boîte de Carmontel.
Alors, les transparents de Carmontel, si vous voulez, sont donc des panneaux peints sans interruption, c'est-à-dire avec une idée continue. Il n'y a pas du tout d'interruption entre une image et une autre. Et ces panneaux sont raccordés entre eux, ils sont collés bord à bord. Et pour fortifier, enfin pour rendre résistants les rouleaux qui sont des rouleaux de papier, eh bien, il met en haut et en bas un galon qui permet en fait de supporter la traction qu'on va exercer sur eux en les dévidant. Les premiers panneaux sont peints en noir, comme un vrai film, parce que, et pour la première fois, Carmontel plonge sa salle de spectacle dans le noir. Il faut se souvenir quand même qu'au théâtre, à l'époque, les salles étaient éclairées. On voyait une pièce de théâtre, tout éclairé. Voilà. Et donc là, par contre, il va plonger le public dans le noir, et subitement, le public verra la première image arriver. Exactement comme au cinéma. Car en fait, ces rouleaux sont installés à l'intérieur d'une boîte qui ressemble furieusement à nos grands écrans de télévision. Et à l'aide de manivelles qui sont en haut de la boîte, on fait dévider, donc, devant l'écran, si je puis dire, les images d'un cylindre sur l'autre, ayant pris soin de mettre une source lumineuse qui est soit, lorsque c'est l'après-midi, des rideaux ouverts, mais ouverts juste, en laissant juste la taille de la boîte, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'autre lumière que celle qui passe à travers le film, et soit une bougie ou une chandelle.
Alors, vous dites que le théâtre en mouvement de Carmontel est cinématographique. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'il aime en fait concevoir des pièces qui se déroulent dans plusieurs lieux. Et ça, ça l'a évidemment gêné, puisque l'unité de lieu était un des préceptes théâtrales de l'époque. Et en fait, lui, il veut plus de liberté avec ça. Et ses proverbes, certains de ses proverbes se déroulent d'ailleurs dans plusieurs lieux. Par exemple, l'abbé de Courdinet, puisque l'abbé en question va d'une maison à une autre, puisqu'il cherche à se faire inviter à dîner. Voilà, et donc ce procédé des transparents va lui permettre de faire évoluer ses acteurs, ses personnages en tout cas, pas ses acteurs, ses personnages, d'un lieu à un autre. Et donc le transparent est au fond un immense travelling, un long travelling. On voit au début une voiture à cheval, bien sûr.
Y a-t-il des matériaux nouveaux utilisés ? Car Montaigne utilisait un papier très particulier.
Tout à fait.
Comment est-ce qu'on le fabriquait ? On allait jusqu'à... Vous nous avez parlé tout à l'heure de peinture en noir et blanc, mais il y avait aussi des papiers teintés. Donc, il y a toute une richesse technique là que vous pourriez peut-être nous expliquer.
Alors, les papiers qui ont permis en fait à Carmontel de travailler en transparent, parce qu'il ne voulait pas travailler directement sur du verre, contrairement à Lutherbourg, par exemple, ou Gainsborough, sont en fait des papiers au départ d'origine japonaise, puis qui avaient été rapidement copiés par un Anglais qui s'appelait James Wattman, qui était déjà le fils d'un inventeur ou d'un grand fabricant de papier. Et Wattman arrive à contretyper les papiers japonais et en outre à leur assurer une reproductibilité excellente. Et ce qui permet en fait d'avoir des papiers d'une teinte constante et d'un grain constant. Donc en transparence, c'est très important. Et c'est comme cela d'ailleurs que Carmontel obtiendra cette qualité, cette finesse de définition que les autres papiers ne permettaient pas à l'époque. Dans la fin de sa production, c'est-à-dire aux alentours des années 1795 et surtout au début du régime de Napoléon, ce sont des fabricants français qui vont se substituer à Wattman, on n'achetait plus à l'époque en Angleterre, et qui vont réussir à contretyper, après beaucoup, beaucoup d'essais infructueux, vont réussir à contretyper les papiers anglais.
Canal Académie vous propose d'entendre Valéry Giscard d'Estaing présenter les archives de son septennat de 1974 à 1981. Écoutez l'ancien président expliquer comment les archives de la présidence sont non pas des documents privés, mais des archives nationales, une source majeure pour les études en histoire contemporaine. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademie.com.
Alors, sur ce papier transparent, Carmontel met au point une méthode de peindre particulière. Comment faisait-il ? Comment procédait-il ?
La première chose, c'est que lorsqu'il concevait un transparent, il en prévoyait la longueur. Et ils peuvent faire en principe entre 20 et 45 mètres. Et lui concevait la longueur de son transparent suivant l'histoire qu'il allait...
On va parler après des histoires.
Voilà. Mais c'est important parce que c'est comme cela qu'il détermine la longueur de son transparent. Après cela, eh bien, il en fait une composition qu'il appelle lui-même un scénario et il va décrire panneau après panneau et encore une fois en continu les scènes de ce scénario, sachant que à chaque joint entre deux panneaux, de façon à ce que ne se voit pas le trait de colle qui permet de les coller, il va mettre, s'arranger pour avoir toujours là soit un arbre, soit une colonne, soit un élément vertical qui fait que le collage disparaît, ne se voit pas.
Comment procède-t-il ? C'est-à-dire que c'est ce qui compte pour le spectateur, c'est le visuel, c'est les couleurs, c'est la lumière. Donc, quelles astuces a-t-il trouvé pour valoriser davantage cette lumière ? Parce que c'est un problème, l'éclairage à l'époque, même au théâtre.
Tout
à
fait.
Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais comment va-t-il procéder ?
La première chose dont il se rend compte,
jouer
c'est
des lumières sur ces fameux transparents.
Oui, il se rend compte très vite que s'il peint à plat, eh bien, il n'obtiendra pas le même effet que s'il peint, en fait, contre une vitre. Et donc, tous ces transparents sont peints, les papiers ayant été collés au préalable sur une vitre, de façon à ce qu'ils se rendent compte d'emblée quel était l'effet visuel que le panneau allait avoir. Et ensuite, il va dessiner au crayon. Parfois, d'ailleurs, va repasser à la plume lorsqu'il veut un dessin plus fort. Et par exemple, les cieux seront traités à grands coups de brosse, si je puis dire, avec de l'aquarelle relativement légère, alors que l'architecture sera déjà avec quelque chose de plus fourni. Et les personnages, eux, sont dessinés, peints d'abord en couleur claire, couleur chair, puis habillés, ce qui leur donne une consistance, lorsqu'on les voit en transparence, une consistance réelle. Et c'est ce qu'ils cherchaient.
Il peignait au verso de ces
Alors, pour certains effets particuliers, certains effets spéciaux, en particulier les effets nocturnes, lorsqu'il veut obtenir un clair de lune ou la lune passant derrière les nuages.
Il a dû s'amuser. Hein.
Eh bien, il peignait recto et verso, ça donnait un effet de profondeur.
Alors, comment fixait-il justement les couleurs pour qu'elles ne fanent pas trop vite? Vous nous avez parlé de la qualité du papier. Pour les couleurs, c'est la même chose, parce qu'il y a de la lumière d'utiliser, oui. Les rouleaux sont en mouvement.
Il utilise contrairement à ce qu'on pensait, la couleur n'est pas de l'aquarelle. Il utilise une espèce de technique mixte qui lui est très particulière et qui en outre est spécifique à chaque type de couleur. Et donc, il va mélanger des gommes, de l'huile, etc. Et il va donner sa technique de façon précise dans un mémoire qu'il adressera à la Convention en 1795 pour essayer de faire industrialiser son procédé, industrialiser entre guillemets, Et c'est là qu'on connaît extrêmement bien sa technique.
D'accord. Alors, qu'est-ce que Carmontel souhaitait raconter dans ses histoires? Lui, justement, le portraitiste de la société de son temps, le grand amateur de proverbes. Est-ce que vous pouvez nous citer des titres, différents sujets qu'il souhaitait aborder?
Alors d'abord, je pense qu'il faut distinguer plusieurs parties dans son œuvre. La première partie, c'est d'ailleurs ce que les mémorialistes du temps vont qualifier, il mettait ses proverbes en transparent. C'est-à-dire qu'en fait, il va mettre sur ses transparents, sur ses films, qui lui permettaient de faire bouger donc ses personnages et de les faire se promener dans la campagne. Il va écrire des histoires qui sont celles que l'on a en proverbe, et donc raconter une histoire, très généralement d'ailleurs, ce sont des histoires d'hommes et de femmes, il y a du libertinage, il y a un peu de galanterie, etc. C'est tout à fait charmant, et c'est vraiment l'atmosphère de l'époque, et ça se passe alors dans ces propriétés de campagne, ces folies, ces maisons de campagne, qui aujourd'hui serait situé dans Paris, mais qui à l'époque était à l'extérieur de Paris.
Vous avez des titres, des sujets, des transparents?
Non. Les titres de ces transparents qu'il a laissés, c'est pas lui d'ailleurs qui les a écrits, mais dans son inventaire après décès, les seuls titres que l'on ait, c'est Campagne de l'Île-de-France, oui, avec leur jardin et leur propriété, etc. Donc, à mon avis, ça n'était pas du tout le titre qu'il avait lu.
Qu'il avait dû
mais
donner.
Comme tous les dialogues, il les faisait sur le moment, comme encore une fois, une commedia dell'arte, ou surtout comme un film muet dont un commentateur vient faire le dialogue.
A-t-on les textes de certains scénarios? Aucun.
Non, on a les textes de ses proverbes, mais on n'a pas du tout
les textes des scénarios.
Absolument
transparents.
Non, d'ailleurs, très probablement, il n'avait pas de texte écrit. Il avait tout simplement, il parlait, bruitait, faisait les dialogues. Et les mémoires du temps, les gens qui ont assisté à ces représentations, disent d'ailleurs qu'il racontait moult anecdotes, etc., parfois avec un ton savoyard, ce qui, pardon pour les savoyards, voulait dire grossier.
Alors, y a-t-il des thèmes récurrents quand même qu'on peut retrouver dans les transparents dont on dispose? C'est souvent des histoires de déplacement, de... Il se promène
et il regarde la campagne qui se déroule autour de lui. Donc ça, c'est déjà aussi une chose importante pour nous parce que c'est une formidable source iconographique. Et puis, si vous voulez, on peut parfois retrouver un thème. Celui qui est le plus évident, c'est probablement ce magnifique transparent qui est quasiment complet, qui est aujourd'hui dans une collection privée à Paris, qui raconte finalement, ça on peut en déduire avec les livrets des valets, etc., et les diverses scènes qui se déroulent, on peut en déduire que le sujet, c'est une journée à la campagne chez les Orléans, avec les Orléans. Et là, on voit alors dans ces grands parcs qui appartenaient aux Orléans, qui étaient le Raincy, Saint-Leu, Monceau, donc la famille possédait de grands domaines autour de Paris. Et il montre là, alors, comment on s'amusait. Donc, vous avez des scènes de jeu qui vont de l'escarpolette à Colin Maillard. Colin Maillard qui était un jeu avec des connotations érotiques, puisque ça permettait en fait de palper quelqu'un pour le reconnaître, ce qui évidemment n'était pas envisageable lorsqu'on n'a pas les yeux bandés. Vous avez aussi une très jolie scène de quatre coins, où on voit ces ravissantes robes et ces femmes avec des chapeaux à plumes. On se demande d'ailleurs comment les chapeaux à plumes tiennent sur leur tête quand elles courent comme cela. Vous avez un jeu de bar. Là aussi, encore, on est dans ce genre de jeu puisqu'il s'agit en fait de faire un maximum de prisonniers. Et vous aviez, au moment où il dessine cela, un joueur passionné de jeux de bar qui était le jeune Napoléon Bonaparte, qui montrait peut-être là déjà ses volontés de faire prisonniers des quantités de gens. Et donc voilà, donc c'est vraiment le jeu, on va de propriété en propriété.
De parc, surtout ce sont des extérieurs.
Ce sont toujours des extérieurs, mais ce transparent-là est peut-être le seul dont on puisse dire, voilà, le thème, c'est vraiment cela. Une journée à la campagne chez les Orléans. Et on voit la nacelle bleue de Bathilde d'Orléans avec les valets en couleur chamois, couleur des Condés, puisqu'elle était devenue duchesse de Bourbon. Et donc, était rentrée dans la famille Condé, qui est d'une grâce et d'une élégance à nul autre semblable. Donc ça, c'est un thème assez précis. Après, vous avez, ce transparent a dû être fait dans les années 91, que l'on reconnaît assez bien. Et puis, vous avez ensuite, alors en pleine révolution, en 95, un autre thème alors, qui va être les quatre saisons. Et ce transparent-là, qui est au musée de Sceaux, et que le musée de Sceaux va probablement exposer peut-être l'année prochaine, là, il y a un vrai discours politique, qui est une justification de la révolution. Pas oublier que Carmontel est un homme très engagé politiquement et qu'il fait partie de cette société du Palais Royal qui a joué un rôle certain dans les débuts de la Révolution. Et s'il regrette évidemment le dérapage très sanguinaire, en tout cas, il reste attaché à ses idées. Et ce transparent des quatre saisons est un jeu du regard entre les privilégiés qui regardent les gens plus modestes travailler et les gens plus modestes qui regardent des privilégiés s'amuser.
Donc là, on va avoir un mélange sur les transparents. On va pouvoir voir différents types de personnages, différents milieux cohabités.
Absolument.
Et c'est assez frappant. Peut-on dire que Carmontel est un reporter de son temps ?
Absolument. Ça, c'est vraiment très typiquement, si vous voulez. D'ailleurs, tous ces transparents sont vraiment... Il fait œuvre de reporter. Ça reste exactement comme... Ces comédies et proverbes étaient aussi une forme de reportage de la société de son temps, et évidemment les portraits aussi. Alors ce transparent des quatre saisons, qui est le plus long d'ailleurs, qui doit faire 42 mètres, où il a une technique très aboutie.
Oui, là il excelle dans sa technique du transparent.
Il faut se souvenir quand même que c'est un homme qui a 70 ans quand il fait cela. Mais effectivement, il excelle, et très intéressant à la fois... par la qualité du dessin, la qualité des images, et aussi par les sujets des images. Et là, on voit par exemple des choses comme la moisson. Moi, je dois dire que je n'imaginais pas que les femmes étaient utilisées comme travailleuses temporaires, c'est le cas. Et on voit que les femmes retroussent leurs jupes et sont là dans les champs, elles fauchent. Et ce sont les hommes qui commandent. On a une ligne entière de femmes qui fauchent et les hommes commandent. Et cela en plein soleil, évidemment, sous l'arbre, vous voyez quelques privilégiés qui regardent les moissons se faire.
Donc témoin de l'évolution de la société de son temps, qu'on retrouve vraiment très très clairement dans ces transparents. Vous parliez tout à l'heure d'un engagement politique fort. Est-ce que c'est visible dans ces transparents ?
Dans celui-là, oui, certainement.
Oui, vous trouvez ?
Dans celui-là, oui, certainement. Mmh. Lorsqu'on voit défiler les scènes les unes derrière les autres, ce jeu du regard est toujours très critique.
D'accord.
Et ça vient aussi, ce transparent vient aussi après des écrits sur l'art en particulier, dans lequel il exprime de façon alors très précise son engagement politique. Et ces écrits sur l'art sont des pamphlets anonymes, comme c'était très souvent le cas, mais dont on a pu, si vous voulez, déterminer qu'effectivement c'était bien de lui, par des témoignages annexes. Et il montre bien à quel point, oui, il était engagé dans cette pensée, qu'on peut appeler comme on veut, mais qui était une pensée en tout cas très libérale.
Vous avez fait tout un travail de recherche, d'identification des lieux des différents transparents qui sont parvenus jusqu'à nous. Et un travail assez colossal. Enfin, je ne sais pas si c'était facile d'identifier ces lieux, mais visiblement, vous êtes très précise. Vous identifiez le pavillon de Conflans, la folie de Châtillon, la maison de plaisance du prince de Guise à Arcueil. Mais en même temps, dans des scènes de transparents où il n'y a pas d'éléments architecturaux comme ça visible. Comment avez-vous fait ?
D'abord, il y a beaucoup de descriptions des lieux autour de Paris qui appartenaient toujours à
ça,
des gens
votre travail
très
de recherche.
Nantis. Oui. Mon travail de recherche a d'abord été de retrouver les transparents.
Ah, bien sûr.
Ce qui n'était pas du tout évident parce qu'en dehors de celui de Sceaux et de celui de Chantilly, les autres sont dans des collections privées. Il y en a un morceau au musée Getty. Mais si vous voulez, les autres sont tous dans des collections privées et sont tous absolument inédits. Donc voilà. Et par contre, on a quand même un certain nombre de descriptions des lieux par des motifs divers, des mémoires, des récits de voyage, de gens qui, souvent des étrangers d'ailleurs, qui viennent à Paris et qui nous permettent d'identifier tel ou tel endroit. Et puis, il y a d'autres reproductions de ces lieux. Par exemple, Hubert Robert va peindre évidemment Méréville, Ermenonville, etc. Et donc, on peut faire très bien les associations.
Est-ce que Carmontel vivait bien ou financièrement de cette invention ?
Non. Carmontel n'a pas vécu bien de cette invention. En fait, Carmontel avait des gages tout à fait raisonnables lorsqu'il était chez les Orléans, mais lorsque duc a été guillotiné, les biens confisqués, qu'il a dû quitter le palais royal et qu'évidemment il n'était plus payé.
Il a fallu trouver une solution.
Il a fallu trouver. Alors, il habitait à ce moment-là, il a passé la Révolution à côté de Dampierre et il a trouvé dans le duc de Béthune. Béthune Charot, quelqu'un qui a été intéressé par son invention et qui lui a alloué une rente viagère contre l'achat, l'acquisition de deux transparents. Et je ne sais pas où sont ces deux transparents.
Alors, il a eu à défendre son invention devant la... Vous nous parliez tout à l'heure de la période révolutionnaire.
Il voulait en fait diffuser son invention. Il estimait que c'était quelque chose de très intéressant, dont on pouvait faire beaucoup de choses, qui rencontrait un grand succès.
Un
succès. Mais que, si vous voulez, à l'époque, il n'y avait encore que quelques familles très nanties qui avaient eu droit aux démonstrations de Carmontel et souhaitaient pouvoir donc diffuser plus largement. Il disait, eh bien moi je veux bien continuer à concevoir le scénario, à diriger des travaux, mais je ne peux tout de même pas continuer à peindre, c'est un travail gigantesque. Quand on voit le travail que cela suppose, c'est vraiment un travail gigantesque. Et évidemment, le comité de salut public 94-95 avait tout à fait autre chose à faire que s'occuper de cela et n'a pas répondu. Alors il va encore, le consulat, il va encore peindre quatre transparents. J'en ai retrouvé un chez Mrs. Mellon aux États-Unis qui a bien voulu me montrer et d'ailleurs dans les conditions tout à fait merveilleuses de l'époque, c'est-à-dire qu'en fait le bibliothécaire de Mrs. Mellon a joué le rôle de Carmontel sans le bruitage, sans les dialogues, parce qu'il ne pouvait tout de même pas inventer les dialogues, mais il a passé pour moi d'un cylindre sur l'autre dans la boîte de Carmontel ce transparent qui est superbe et qui est source de découverte sur l'état d'esprit du début du consulat et des images que je n'avais, je dois dire, bien que j'ai beaucoup vu d'images, je n'avais jamais vu, par exemple, un groupe de jeunes gens en costume du consulat, ces jeunes femmes charmantes, imitant Joséphine Bonaparte et avec leur tunique de mousseline blanche et les hommes dans ces costumes relativement discrets d'ailleurs. Et puis survient un couple plus âgé dont elle est, comme elle s'habillait 10 ans auparavant, c'est-à-dire en costume d'ancien régime, maquillée blanc et rouge, avec ce rouge sur les joues, perruque, grand chapeau. Et lui est avec perruque aussi, alors que Bonaparte ayant coupé ses cheveux, la France entière a coupé ses cheveux. On imagine toujours que le consulat, tout le monde subitement a changé de mode et s'est habillé, ce qui est faux. Et voilà, donc il y a plusieurs vues comme ça, tout à fait très étonnantes. Et pour moi, une de celles qui est la plus remarquable, c'est ce passage dans ce film, puisque j'appellerais ça un film, où Carmontel veut faire comprendre qu'elle est désormais la vision de l'amour. Et il y a une première vue où on voit, sous une arche plutôt de rocher, on voit deux jeunes gens dans un parc en pleine lumière. Oui, car il faut dire qu'on n'a plus de fabrique en rose fuchsia et avec coupole en lapis lazuli bleu, parce que Bonaparte, en grand romantique qu'il est, a privilégié les grottes d'Ossian. Et donc tous les jardins se font de façon plus naturelle, etc. Et donc cette première vue qui est près des rochers, on voit ce couple de jeunes gens qui échangent des regards assez loin l'un de l'autre, en pleine lumière. Et puis la caméra se déplace et on arrive à une deuxième arche, déjà plus dans le noir, et où les deux silhouettes se sont rapprochées, on ne les voit plus qu'en contre-jour. Et enfin, on arrive à la troisième, où alors on est devant une grotte absolument obscure et on ne voit plus rien. Mais au-dessus, voilà, on voit une jeune femme avec un enfant. Et évidemment, désormais, l'amour est un amour plus du tout libertin et dont la fonction est la procréation. Le Code civil est passé par là et c'est en trois vues absolument...
Un témoin de son temps.
Oui, montrer quelle est l'évolution de cette société qui est tout à fait remarquable.
Alors, aujourd'hui, vous nous avez un petit peu dévoilé où ces transparents étaient, mais où sont-ils précisément? Où sont-ils conservés? Qui les possède?
Alors, malheureusement, une grande partie de ces transparents ont été découpés. Car ces rouleaux, si vous voulez, faits de panneaux, eh bien, soit pour des raisons de profit, soit pour des raisons personnelles, on a découpé et on a... J'ai vu dans des salles à manger, dans des salons, des morceaux de transparent qui ont été encadrés comme un tableau. Ça fait un tableau charmant d'ailleurs, mais malheureusement, le transparent n'existe plus. Il n'est plus dans sa fonction initiale. Il existe malgré tout donc un morceau qui est au musée Getty, qui est d'ailleurs reproduit dans le livre entièrement.
À Los Angeles,
lequel musée Getty d'ailleurs va publier une version américaine du livre et qui sortira au mois de
cinéma au siècle des Lumières.
Voilà, et qui sortira au mois d'octobre à Los Angeles et à New York en même temps. Alors, il y en a un qui est à Chantilly, qui est probablement un des premiers qu'il a fait. On voit que la technique n'est pas encore tout à fait rodée et en particulier, son sens des couleurs n'est pas aussi parfait, abouti que ce que l'on va voir après.
C'est de très belles vues qui annoncent presque le romantisme. Il y a une pleine lune.
Alors
qui
ça, c'est à Sceaux. Celui de... celui de Chantilly est tout à fait intéressant. On est vraiment dans les premiers et donc là, on peut voir qu'il y a une comédie de mœurs. On retrouve les personnages de scène en scène. Il y a même d'ailleurs, de mémoire, une scène de ménage à l'évidence. Enfin, une scène de couple, je ne sais pas si c'est un ménage. Et parce qu'on est vraiment dans les années 1780, à la fin de l'Ancien Régime, et le libertinage qui est omniprésent. On compte fleurettes, voilà. Et les militaires ne s'en privent pas avec toutes ces jeunes femmes au coin d'un canal, devant un bassin, enfin... Donc celui-là est pas tout à fait entier, il en manque probablement un morceau, mais il fait tout de même une 12 mètres et quelque chose. Et il a été donné au musée Condé à Chantilly par les propriétaires de l'époque, juste avant la guerre. Et puis vous avez celui qui est au musée de Sceaux, alors qui sont les quatre saisons, ce témoignage formidable des années 1797-98, qui lui est le plus grand, 42 mètres de long, et qui lui est complet. Il n'est pas exposé et il vient d'être restauré. Et il sera probablement exposé l'année prochaine.
À Sceaux même ou à la...
À Sceaux, au musée de l'Île-de-France. Voilà, au musée de l'Île-de-France à Sceaux. J'ai quand même suggéré qu'on essaye de faire, puisque les moyens télévisuels aujourd'hui permettent, ou cinématographiques, permettent en fait d'essayer de faire revivre ce qu'était un transparent, et non pas d'exposer ce transparent comme un diaporama qui n'a rien à voir.
Oui.
Et l'idée de Carmontel, c'est quand même comme au théâtre, vous avez oublié, et comme au cinéma, vous avez oublié la scène d'avant. Et vous ne connaissez pas encore la
suite
d'après.
C'est de très important. Tout d'un coup.
Voilà.
C'était donc ça sa recherche.
Voilà.
C'était de
absolument.
Que le spectateur parcourt un espace en même temps que le
absolument.
Transparent déroule sous ses
tout
yeux.
Tout à fait. Et que l'histoire, il ne la connaît pas.
Voilà.
Il va découvrir scène après scène une histoire. Voilà. Et puis, il y en a un donc magnifique, très beau. C'est celui qui a été fait, un des derniers, tout dernier qu'il fait. Il a tout de même près de 80 ans. 85 ans même, et qui est donc chez Mrs. Mellon aux États-Unis, qui est donc celui qui a été fait sous le consulat, et qui tranche, on voit que le changement de la société est fait, et c'est vraiment d'ailleurs très intéressant parce que même dans la vibration de la lumière, dans le choix des couleurs, on voit qu'il y a eu un changement. Et Carmontel sait le faire percevoir.
Il y a moins de feuillage peut-être, moins de verdure, c'est le thème du jardin, enfin, les arbres sont très très présents dans tout,
oui.
C'est transparent. On a une constance des extérieurs, on l'a dit, des jardins, des parcs,
mais
etc.
Mais il faut se souvenir qu'autour de Paris,
Alors, bien sûr,
c'était couvert de forêts, serait-ce d'ailleurs que parce qu'on avait besoin de bois pour chauffer Paris.
Mais ça aurait pu être d'autres vues, hein. C'est ce qui est décidé. Là. Enfin, le choix, il y a quand même un choix de fait.
Le choix qu'il a fait était vraiment les campagnes d'Île-de-France.
Voilà, c'est un choix.
On est vraiment... Mais c'est là où il habite.
Oui,
il n'invente pas.
Non.
Il n'invente pas, il ne fait que décrire. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça d'ailleurs qui est à chaque fois dit et redit par les témoins de l'époque. On reconnaît les personnages. Évidemment, nous ne pouvons plus les reconnaître. Mais on reconnaît les personnages, on reconnaît les lieux. On les compare et c'est ça qui amuse.
Même
les gens.
Sur les transparents, parce que les personnages sont grands, parce que par rapport à ces portraits, là, dont on est sûr, on sait quand. Je ne parle pas des transparents, hein, je parle des portraits.
Et parce qu'ils les mettent
sur les transparents, on reconnaît les personnages.
Alors, ce qui était dit par les témoins. Encore une fois, nous ne les reconnaissons pas. Mais ce que l'on peut reconnaître, par contre, dans celui que j'ai cité, qui est une journée à la campagne chez les Orléans, tout à fait, mais on reconnaît
par exemple au paysage.
Oui, mais on reconnaît par exemple très bien quelqu'un qui est en habit de Villers-Cotterêts. C'est tout à fait très clair. Et donc, d'ailleurs, un autre qui représente probablement le château de l'Isle-Adam qui appartenait au Conti. On voit là, malheureusement, il a été coupé, donc on ne connaît que quatre scènes. Je ne connais que quatre scènes. On voit là assez bien que c'est le duc d'Orléans qui vient, qui fait escale à l'Isle-Adam, probablement pour aller à Villers-Cotterêts, puisqu'il a revêtu son habit de Villers-Cotterêts. C'était une habitude à l'époque qui a été complètement perdue. C'est que lorsque vous alliez dans un grand domaine, eh bien, on vous donnait l'habit de ce domaine. L'habit de Villers-Cotterêts était vert, apparemment moucheté, jaune et noir. Celui de Saint-Cloud était rouge, avec parements bleus.
Alors, avec toutes ces indications précises, j'invite nos auditeurs à parcourir des yeux, évidemment, ces transparents quand ils seront exposés, mais surtout à les découvrir d'abord dans ce très beau livre, Le cinéma au siècle des Lumières, aux éditions Monet-Layau, où il y a vraiment un très bel effort de reproduction de ces transparents. Là, par exemple, sur ces quatre pages en continu, ça représente plusieurs mètres.
Ça, c'est le transparent du musée Getty.
Du musée Getty, donc dans sa totalité, on peut...
Oui.
On peut voir effectivement tout l'ensemble, alors tel qu'il n'était pas présenté aux spectateurs.
Tout à fait.
Mais
je crois qu'il faut
comme
bien
nous sommes gourmands,
comprendre cela. Voilà.
Et très habitués aux images,
on
les voit.
Un petit peu plus.
Mais c'est...
J'ai demandé à ce que l'on représente aussi une scène qui est extrêmement amusante, comme les gens la voyaient. Donc en fait, on voit deux jeunes femmes qui sont assises sur un banc et qui sont en train de parler. Et là, on peut reconstituer même le dialogue parce qu'il y a un proverbe de Carmontel qui dit cela.
Oui.
Voilà. Et puis, vous voyez tout de suite derrière, la scène suivante, vous voyez deux hommes, alors amants ou maris, on ne sait pas. Deux hommes qui sont en train de les regarder, de les épier derrière une haie. Et puis, la scène suivante, vous voyez un troisième homme qui regarde ces deux hommes. Et évidemment, tout le monde, paraît-il, connaissait cette histoire. Et la maison représentée pourrait être d'ailleurs celle faite par Boucher, créée par Boucher, dessinée par Boucher pour Vatelet, qui était un ami de Carmontel et surtout qui avait fait ce jardin tellement connu, le Moulin Joly, qui est représenté sur ce transparent. Moulin Joly qui était à côté de Courbevoie et qui a été remplacé aujourd'hui par des cuves de gaz et des choses de ce genre qui sont beaucoup moins romantiques et beaucoup moins ravissantes.
Laurence Châtel de Brancion, merci beaucoup pour cet éclairage sur les lumières, dans tous les sens du terme. Là, le siècle est aussi l'invention de Carmontel, qui est à l'origine du cinéma qu'on connaît quand même, cette passion du mouvement des images.
On aura sûrement une influence sur le fait qu'on va continuer dans cette voie d'avoir un théâtre sans acteur, et le cinéma va d'abord être un théâtre sans acteur.
Vous pouvez retrouver les images évoquées au cours de l'émission par Laurence Châtel de Brancion sur le visuel de l'émission sur notre site internet. Merci beaucoup.
Merci à vous.